Le Seigneur soit béni. Alors, ce matin, nous allons essayer de comprendre un peu plus la notion de la gloire. La gloire. La gloire, non seulement dans l'Église, la gloire de Dieu, la gloire d'une manière générale. Vous savez que les hommes sont en recherche de gloire, hein. Il y a des gens qui ont donné leur âme à Satan parce qu'ils voulaient être glorifiés sur la terre. Des gens qui se baladent avec des serpents autour du cou et qui chantent sur des grandes scènes. Oui, il y a des gens, on connaît même plus, j'ai complètement oublié le nom. Je ne saurais même plus vous le dire. J'ai oublié. Donc, c'est une gloire passagère, fugitive. Nous sommes comme une vapeur. Hein, la vapeur, ça s'évapore, hein. La vapeur d'eau, nous sommes comme une herbe qui passe, comme un son qui disparaît. Une herbe. Donc, nous ne vivons pas longtemps sur la terre, et pourtant, il y a quelque chose de formidable pour nous. Hein? Nous avons vraiment il y a la gloire qui a été mise au fond. Il y a un vide de la forme de Dieu, et Dieu, il épouse toute cette forme. Il a une gloire extraordinaire. C'est ce que nous avons besoin dans nos vies. Alors, la gloire, en hébreu, kabod, implique l'idée de poids. Donc, la gloire est associée à une idée de poids. Le poids d'un être dont l'existence définit son importance. Ça me fait penser à un roi, dans Daniel. Hein, avec le doigt là, qui a passé, pesé, compté, hein, etc. Et ce roi était pesé léger. Léger. Sa gloire, elle était légère. Il a disparu. Et donc il y a l'idée d'un poids dans l'existence, le respect qu'il inspire sa gloire. C'est la valeur réelle estimée à son poids. Paul nous parle dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, 17, d'un poids éternel de gloire. Il y a donc un poids éternel de gloire pour chacun, et on verra à quoi c'est associé. En grec, il y a le terme doxa, qui signifie plutôt la renommée. Donc, kabod, c'est plutôt le poids, et doxa, la renommée. Alors, on voit plusieurs significations de ce mot gloire, de plusieurs sens, pardon. Le premier sens, c'est la gloire et la richesse, la parure, ce qui donne de l'éclat, ce qui recouvre. Et alors, on a quelques exemples comme ça. Salomon, par exemple, dans Matthieu, chapitre 6, verset 29, Salomon, dans toute sa gloire, Jésus disait que Salomon n'a jamais été revêtu, Dieu revêt les herbes, hein, encore mieux que Salomon dans toute sa splendeur. Et donc, ça parle de ses habits, hein, de recouvrement de Salomon. Matthieu 4, verset 8, la gloire des nations, ce sont leurs richesses. La chevelure et la gloire de la femme. La force et la gloire des jeunes gens. Jéhovah, c'est plutôt Yahvé, parce que je préfère ce terme. Jéhovah n'est pas proprement le terme de Dieu, c'est un mélange d'Adonai et de Yahvé. Donc Yahvé est la gloire d'Israël. C'est la gloire d'Israël. Alors un deuxième sens, la gloire est l'éclat lui-même. Le rayonnement qui se dégage de Dieu. Ça c'est le rayonnement. L'éclat, le rayonnement qui éblouit, qui inspire de la crainte, le respect, l'admiration et l'adoration. Exode, chapitre 24, verset 17, l'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant sur la montagne. Il y avait un feu, la gloire. Et ils avaient de la crainte, ils avaient terriblement peur, au point qu'il disait à Moïse d'aller lui-même à la rencontre de ce Dieu. Donc, l'éclat de cette gloire. Troisième sens, la gloire de Dieu, c'est l'éclat de ses perfections infinies, la révélation de sa sainteté, de sa puissance, de son amour, Et on le voit déjà d'une manière peut-être imparfaite, mais quand même, on peut comprendre en regardant la création, la nature, la perfection de Dieu, vraiment la capacité de Dieu d'avoir créé ces choses qui nous renvoient eh bien, à ces aspects illimités, parce que Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Nous voyons dans la nature des choses qui sont limitées, qui seront détruites un jour, mais nous pouvons comprendre que celui qui a créé tout cela, lui, ne vieillit pas, ne se ternit pas. On sait que la terre, il la roulera un jour comme un manteau, mais c'est quand même, il y a quand même quelque chose que nous pouvons voir au travers des océans, des montagnes, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, des choses belles dans les perfections de Dieu. Dans nos cœurs aussi, comme réfléchir, cette gloire est réfléchie comme par un miroir métallique qui est un peu confus. Hein. Au temps des Romains, eh bien, il n'y avait pas de beau miroir comme aujourd'hui. On se voyait sur du métal poli. Alors, ça renvoyait une image, pour eux, c'était bien, quoi. Mais on a mieux aujourd'hui, bien sûr, surtout avec la Nouvelle Alliance. Hein. On peut voir dans l'Ancienne Alliance que Dieu fait passer la gloire de Dieu devant Moïse, mais il ne peut pas la voir face à face. Et aujourd'hui, avec le Christ, nous pouvons contempler la gloire du Dieu infini. Alors, les délivrances et les bénédictions d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est une révélation de la gloire de Dieu. C'est au travers des actions de Dieu, il délivre, il fait sortir Israël hors d'Égypte et le fait passer dans la mer Rouge. Et là, c'est une manière de voir sa gloire, la gloire de Dieu. Hein. Et Dieu dit d'abord que je serai glorifié aux yeux des Israélites, mais aussi, d'abord au niveau des Égyptiens, au niveau des Israélites aussi, de son peuple, il sera glorifié et il y aura tellement de bénédictions pour le peuple. Dieu se souvient, Dieu agit selon ses promesses. Les tables de la loi, dans l'arche aussi, il y a une gloire. Vous savez que l'arche de l'Alliance sera mise dans le lieu très saint du tabernacle, puis du temple. Et le lieu très saint, bon, il y avait le lieu saint, mais il y avait déjà un parvis. Et tout autour du parvis, il y avait, par exemple, dans le tabernacle, il y avait des rideaux, hein, avec une porte d'entrée, enfin, un accès, et c'était réservé aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs devaient faire leur service, les Lévites pouvaient faire leur travail. Hein. Il y avait déjà trois fonctions. Tout le monde faisait pas ce qu'il voulait. Il y avait d'abord les Lévites qui portaient le tabernacle, qui ne faisaient pas le travail des sacrificateurs, puis des sacrificateurs qui, eux, pouvaient aller à l'intérieur et offrir les sacrifices. Mais il y avait une personne qui pouvait aller au-delà du voile entre le lieu saint et le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur. Et il y avait une sainteté tellement grande que si il n'était pas assez sanctifié, eh bien, on avait déjà tout prévu. Il y avait la possibilité, on lui attachait à son pied un cordon qui permettait éventuellement, s'il mourait à cause de la sainteté, qu'il ne s'était pas assez sanctifié, on pouvait le retirer de ce lieu parce que personne ne pouvait y aller. Vous voyez, la sainteté du Dieu vivant, Dieu est un feu dévorant, et il y avait une gloire extraordinaire au-dessus de l'Arche de l'Alliance, qui contenait les deux tables de la loi, les 10 commandements, une gloire extraordinaire au-dessus du propitiatoire, le couvercle recouvert d'or. Ben, l'or, c'est tout des symboles. Hein. L'or représente la royauté, le bleu représente le ciel, d'accord ? Le rouge dans le tabernacle, ça représente déjà le sang de Christ, hein, qui va être offert. Et tous les sacrifices apportés par le souverain sacrificateur, ça représente le sang du Christ, le sacrifice parfait qui plaît à Dieu parfaitement et qui nous permettra un jour d'être en relation avec lui. Et c'est fait parce que nous sommes déjà dans cette période de la Nouvelle Alliance, heureusement. La nuit qui guide, pour l'Ancien Testament, il y avait la nuit qui guidait, la gloire de Dieu était au-dessus du tabernacle. On le verra aussi avec le temple où la nuée était là. Et il y a encore deux choses différentes. Il y a la nuée, et je voudrais simplement faire une parenthèse ici. Il y a la nuée, faisons attention, il y a deux choses différentes. La nuée et la gloire. C'est encore deux choses différentes. Il pouvait très bien y avoir la nuée et on pouvait voir la nuée. Être sensibilisé par la nuée qui se trouvait au-dessus du tabernacle. Mais c'est encore autre chose, la gloire, qui se trouvait à l'intérieur. Alors, je peux vous dire, c'est encore autre chose que de frissonner, parce que nous ressentons le Saint-Esprit au milieu de nous, et de vivre dans la gloire. Cette gloire à laquelle Dieu nous appelle. Alors, elle remplissait le temple. La gloire de Dieu remplissait le temple. Nous voyons ça dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Elle remplissait le temple. Alors, bien sûr, Jésus est la gloire de Dieu. La gloire révélée de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et on le voit dans le chapitre 1er de Jean, au verset 14, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, là on peut le prendre si vous voulez bien. Donc Jean chapitre 1er, verset 14. Jean chapitre 1er, verset 14. Quand je vois que vous feuilletez votre Bible, je me dis ça y est, ça va, ils nous sont endormis. Jean chapitre 1er verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Elle ne cesse, cette gloire-là, de se manifester par sa sainteté. Dieu est parfaitement saint. Donc dans l'évangile de Jean, chapitre 17, où nous avons été tantôt, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, dit Jésus, parce qu'il est saint. Il a manifesté la sainteté de Dieu sur la terre, et en manifestant la sainteté de Dieu, il a manifesté la gloire de Dieu. Et il a manifesté la gloire de Dieu par les miracles. Jean, chapitre 2, verset 11, tel fut à Cana en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. Et aussi, lors de la transfiguration, vous savez que le visage de Jésus va rayonner. Il va illuminer. Il va être glorifié. Au milieu de ses disciples, devant ses disciples, ils vont voir son visage irradié, je vais presque dire. Et ce qui s'est passé, on le voit dans 2 Pierre aussi, chapitre 1er, verset 17. Il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, dit Pierre, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection, la gloire pleine de majesté, va dire de la part, c'est le Père qui parle, par rapport à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, il est l'objet de mon affection. Et la gloire va se manifester en Jésus par sa résurrection, Romains chapitre 6 verset 4, Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père. Par la gloire du Père, il a été ressuscité. Et lors du jugement aussi, Christ sera glorifié, en Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Il viendra dans sa gloire. Dans sa gloire. Alors, un cinquième sens, c'est donner gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, donner gloire à Dieu? Eh bien, c'est reconnaître qu'à lui doivent revenir notre louange et notre adoration, bien entendu, c'est à lui, car nous sommes redevables en toutes choses, pour les moindres choses, nous sommes redevables à Dieu. Si nous sommes en vie, c'est une grâce de la part du Seigneur. Romains chapitre 14, verset 11, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Toute langue donnera gloire à Dieu, en finalité, même ceux qui n'ont pas cru en lui, même ceux qui ont détesté Dieu, même ceux qui ont vécu en hypocrite ou en athée parfait ou quoi que ce soit, qui ont vraiment rejeté Dieu d'une manière ou d'une autre, devront un jour rendre gloire à Dieu. La gloire est la récompense suprême aux bons et aux fidèles serviteurs. Si nous sommes serviteurs de Dieu, eh bien, la gloire sera notre récompense. Il dira un jour, viens, bon et fidèle servante, serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce que nous voulons entendre. Jésus possédait cette gloire avant son incarnation. Déjà dans le ciel, il était dans la gloire, il a quitté la gloire du Père pour venir sur la terre. Mais il a manifesté à la gloire du Père. Et elle lui a été rendue lors de l'ascension. Luc 24, verset 36, il s'est assis. Hein, et on voit aussi dans le psaume 24, élevez-vous, portails éternels. Allez, laissez le roi entrer dans son temple, et il est entré, il s'est assis à côté de la majesté divine, à la droite de son Père. Et un jour, notre corps sera glorifié. Waouh ! 1 Corinthiens 15, 43, nous serons glorifiés, notre corps sera glorifié. Alors on a traduit l'hébreu kavod par le cœur, l'âme, et même la langue. La langue, dans nos traductions, hein, le cœur, l'âme et la langue. La langue, pourquoi ? Parce que c'est le reflet de la gloire divine. Parce que par la langue, nous pouvons dire des choses. Évidemment, la langue est capable des deux, mais vous savez quoi, hein ? Mais la langue est capable de glorifier Dieu. C'est un instrument qui sert vraiment à glorifier Dieu. Et j'aimerais bien qu'on aille dans Marc chapitre 10, si vous voulez bien. Marc au chapitre 10. Verset 35. Jacques et Jean, les fils de Zébédée s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Amen. Alors on voit les fils de Zébédée qui veulent être assis à gauche et à droite de Jésus dans la gloire. Nous vivons dans un monde de compétition où chacun veut être le premier. Chacun veut être plus fort que l'autre et on se compare. Et on veut avoir de la gloire. Et il y a des gens qui ont beaucoup de gloire sur cette terre. Et des gens qui feront tout pour avoir de la gloire, même s'ils ne le disent pas, même s'ils ont le discours de l'humilité, la gloire est quand même une chose que les grands essayent dans ce monde de posséder. On ne peut pas le nier. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau des arts, que ce soit au niveau littéraire, que ce soit dans des professions même médicales ou dans bien d'autres sphères, même de l'enseignement et de tous les domaines, on va dire, dans le monde entier, tout le monde peut se faire une gloire de quelque chose. Peu importe le métier qu'on a, finalement, ou la fonction qu'on a. Et même si nous n'avons pas de fonction, on en a dans autre chose, que ce soit lucratif ou non lucratif. La gloire, ça peut être un problème, mais c'est pas un problème pour Dieu. Et nous allons essayer de découvrir que c'est pas un problème pour Dieu. Mais Jésus lui dit, Jésus va répondre à ça. Voilà, il a deux disciples qui sont là et qui veulent être à sa gauche et à sa droite, enfin relayés par leur mère, le désir d'une maman de porter les fils le plus loin possible. Le plus loin possible. Mais il ne va pas les désapprouver, il ne va pas dire, oh, on n'a pas le droit, c'est pas bien du tout de chercher à être le grand et le premier. Jésus ne dit pas ça. Il ne contrarie pas le fait de vouloir être grand, de faire des choses grandes. Mais il dit plutôt, si quelqu'un veut être grand parmi vous, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il ne dit pas que c'est mal. Il dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, parce que les grands de ce monde veulent être servis. Et t'as vu, c'est moi, hein, bon, on m'a fait un trône ici. On va s'asseoir. Il y a beaucoup de gens qui veulent être... oui, je serai votre serviteur, disent-ils en politique. Et puis ils règnent, ils font ce qu'ils veulent. Ils agissent selon leur bon plaisir quelquefois, pas toujours, mais... C'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Et Jésus dit, non, si vous voulez être grand, eh bien servez. Soyez là pour servir. Et Jésus donne son exemple. Je suis venu... non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. Voilà comment être grand. Servir en devenant le plus petit, en étant le serviteur de tous, en étant le modèle de tous, en étant l'esclave de tous. Voilà l'enseignement de Jésus concernant cela. Alors, pourquoi l'homme recherche-t-il la gloire? Pourquoi est-ce qu'il y a cette recherche effrénée de la gloire dans le cœur humain? Pourquoi? Je peux vous assurer, il y a des fois des monstres d'orgueil. Hein? Bon, mais il y a quand même quelque chose de naturel, et puis il y a peut-être quelque chose qui est au plus profond, qui a été placé par Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? L'homme déchu par le péché a perdu la gloire qui lui était destinée. Voilà le problème, c'est qu'il a perdu la gloire. Dieu avait prévu que l'homme, la femme, le jeune, qui que ce soit, nous puissions avoir cette gloire. Dieu nous a prévu pour vivre dans cette gloire. C'est fou, hein? Vous allez dire, non, moi si je suis un simple paillasson, ça me suffira. Je pense que Dieu avait prévu que l'homme domine sur la terre. L'homme devait dominer sur la nature. L'homme devait dominer sur le péché aussi. Hein. On le voit aussi avec Caïn, domine sur le péché. Donc la domination est quelque part la gloire. Il y a un effet de gloire quand même de dominer, d'être au-dessus. Quoique, qui doit être au-dessus? Parce qu'il y avait quand même... vous ne pouvez exercer de l'autorité que si vous êtes soumis à une autorité. Si vous n'êtes pas soumis à l'autorité, il est impossible que vous en ayez. Il est impossible d'exercer de l'autorité sans être soumis. Celui qui arrête d'être soumis, il perd toute autorité, perd le contrôle. Et on l'a vu avec le diable. Le diable, il a été pris d'orgueil, il a voulu se faire l'égal de Dieu, il a voulu dominer, mais sans Dieu, en mettant Dieu sur le côté et en voulant attirer à lui la gloire. Et ça, c'est la catastrophe. Il était chassé de la gloire de Dieu, il a été chassé de la présence de Dieu, il n'a pas pu recevoir la gloire qu'il aurait voulu. Donc, il est devenu un ennemi de Dieu. Dieu l'a repoussé. Et parce qu'il n'est pas possible que Dieu partage sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. La gloire doit revenir à Dieu lui-même. C'est uniquement par association, quand nous faisons la volonté de Dieu, quand nous nous soumettons à Dieu, il y a de la gloire sur nos vies parce qu'elle procède de Dieu lui-même. Et c'est uniquement parce que nous sommes dans la volonté de Dieu, que nous accomplissons l'œuvre de Dieu, que nous sommes en Dieu, que nous avons les effets de la gloire de Dieu sur nos vies. Mais si nous nous démarquons de Dieu, nous devenons autonomes. Et dans cette autonomie, eh bien, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans Romains chapitre 3, verset 3, « Car tous ont péché » et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors que nous sommes prévus pour la gloire. Chacun porte en soi un désir de gloire qu'il peut reconnaître sincèrement. Nous avons vu Jean et Jacques. Et on le voit à travers les hommes, au travers des hommes. Mais Jésus en parle à propos des hommes de la loi, les docteurs, les scribes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit cela. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ils tiraient la gloire les uns des autres. T'as vu comme je suis fort, t'as vu comme je suis bien, t'as vu, hein, c'est... Waouh! On tire la gloire les uns des autres. Mais est-ce qu'on cherche la gloire de Dieu? Vous voyez la différence? Et Paul dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21. La gloire est illusoire. Et la gloire de l'homme sans Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil. La recherche personnelle de la gloire, c'est un détournement d'adoration. On adore l'idole qu'on s'est créée soi-même, qu'on s'est fabriquée. On peut être une idole pour soi-même. On peut s'idolâtrer, s'auto-adorer, d'accord, ou adorer son prochain. Mettre des serviteurs de Dieu tellement haut, ils peuvent devenir des idoles, d'accord. Mais ça peut être dans le monde, dans n'importe quel aspect de notre société, bien sûr. Et la troisième tentation de Jésus dans le désert, quelle a été cette tentation? Bien, le diable lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous savez, toutes les sectes ont commencé par une tentation venant de l'ennemi. Il y a des gens qui ont été séduits par des tentations, ils ont été placés par l'ennemi, quelque part au-dessus d'une montagne, et le diable leur a proposé quelque chose pour devenir des personnes importantes qui vont pouvoir diriger quelque chose et où ils vont être au-dessus. Au-dessus. Rappelez-vous, une chose, c'est que Christ doit être au centre de tout. Et Christ doit être au-dessus de toute chose. Quelquefois, nous faisons attention à ce que Christ soit bien au centre, et quelquefois, nous nous mettons au-dessus des autres. En utilisant un langage parfaitement évangélique où Christ est au centre de tout, et pourtant, on peut se retrouver au-dessus, à certains moments, des autres. Aïe. Faisons attention. Donc, l'orgueil est une autodéification. L'orgueil précède la chute et l'humilité, par contre, précède, au contraire, la gloire. L'humilité précède la gloire. Proverbe 15, verset 33. Dieu seul doit recevoir la gloire. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu le dit dans sa parole, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est pourquoi Dieu s'oppose à l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4 verset 6. Alors pourquoi ne peut-on pas recevoir la gloire? Ben, parce que nous ne devons pas aspirer à ce qui est élevé. C'est dans Romains 12, verset 16. « Laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. N'aspirez pas à ce qui est élevé. » Pourtant, vous ferez des choses plus grandes que j'en ai faites. C'est quand même, ça semble plus contradictoire, ça. Vous ferez des choses que plus grandes que moi j'en ai faites. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aspirer à des choses parce que les choses trop élevées, ça dépasse, ça va au-delà. Aspirons à ce que Dieu a prévu pour nous, mais pas au-delà. Ne disons pas, oh tiens, t'as vu ce ministère-là, je veux être comme lui, et un peu plus encore. Là, voyez le problème. Nous sommes tous différents, nous n'avons pas à nous comparer, ni à faire le fier, ni à être jaloux, ni à chercher un répondant de gloire au travers de ce que nous pourrions faire, des œuvres que nous pourrions accomplir, afin d'attirer à nous quelque part. Oh, on va dire, oh, je te donne la gloire, mais quelquefois on peut quand même embrasser, hein. Je sais pas, on nage comme ça, mais ça peut aller dans l'autre sens des fois. Et donc, ne soyons pas de ce genre. Alors, évitons l'esprit de paillasson, qui est une fausse humilité, en disant, je ne suis rien, moi. Mais, pour contrer l'orgueil, c'est vrai que ça semblerait juste, hein. Je ne suis rien, je suis qu'un ver, je suis qu'une puce, je suis rien du tout, je ne suis rien. Mais non, ce n'est pas nécessairement l'humilité, ça. Ce n'est pas forcément... Plutôt, Paul dira, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce que je suis, d'ailleurs Dieu le sait, et je ne vais pas essayer de minimiser ce que je suis, je ne vais pas essayer d'augmenter ce que je suis, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, dit Paul, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, parce que vraiment, on essayait de dire de l'apôtre Paul, c'était pas vraiment, il y avait des super apôtres qui étaient encore mieux que lui, etc. Il doit défendre son apostolat à certains moments, on le voit dans les épîtres. Mais il ne veut pas en faire un plat, il ne veut pas en faire un sujet d'orgueil, il veut simplement dire les choses qui sont justes. Hein? Mais toutefois, il reconnaît, c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. Si j'ai pu accomplir ce que j'ai fait, mais c'est par la grâce de Dieu. Si Dieu m'a appelé, c'est une grâce, parce que j'étais le pire des apôtres. Et moi, j'ai persécuté l'Église, ce que les autres apôtres n'ont pas fait. Donc c'est le pire, je suis le plus petit. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai pu accomplir par la grâce de Dieu ce qui a été accompli. En souffrant beaucoup, parce que Paul est un exemple aussi de souffrance et de persévérance dans l'épreuve. L'humilité, c'est donc une absence du désir de se grandir. De se grandir. Pourquoi a-t-on été créé? Pourquoi a-t-on été créé? C'est intéressant de savoir ça. Mais nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et on va voir ça dans Romains chapitre 8, verset 17. Si vous voulez prendre Romains chapitre 8, verset 17. On le voit aussi dans Romains 8, verset 30 et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 12. On voit d'abord Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et donc, il y a donc deux choses. Le poids de gloire, qui va avec... Ça va sur la même balance. Les épreuves, les afflictions, les difficultés, les souffrances. Et puis de l'autre côté, il y a le poids de gloire. Ça va ensemble. Vous voulez la gloire? Acceptez aussi de souffrir pour Christ. Ça marche ensemble. Ça peut pas coller si il y a qu'une chose. Ah, je veux la gloire. Hein. Moi, je veux pas les souffrances. Hein. Les souffrances... Pas question, mais non, ça marche ensemble, ça fonctionne ensemble. Je suis affligé, je souffre pour Christ, et Christ, et je sais qu'il va me glorifier. La gloire est prévue, préparée. Romains 8, 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et devant cela, je me dis, non, ça c'est exagéré. Ça c'est trop, on va pas jusque-là. Je vais arrêter le verset justifié, parce que ça, je crois, prédestination, appel, oui, sur ma vie, justification. Oui, ça c'est bien, là. C'est déjà formidable. Il les a aussi glorifiés. Vous comprenez pas, je glorifie. Il ne faut pas exagérer. Non, on va pas aller jusque-là. Et pourquoi? Et il les a aussi glorifiés. Glorifiés, oui. Mais c'est en Christ, en lui, pas en dehors de lui, pas pour nous-mêmes, pas en nous-mêmes, mais en lui nous sommes glorifiés. En lui, et uniquement en lui. Et 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 12, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui. Selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, Jésus veut être glorifié en nous, afin que nous soyons glorifiés en lui. Et là, la gloire est possible. Et nous avons été prévus dans le plan de Dieu pour être glorifiés en Jésus-Christ. Extraordinaire! Quelle belle perspective extraordinaire! Pourquoi Dieu veut-il partager sa gloire en Christ uniquement? Pourquoi est-ce que c'est en Christ et pas autrement? Pourquoi c'est uniquement en Christ que nous sommes glorifiés? Mais Jésus nous donne sa gloire dès ici-bas. Il nous donne déjà une partie de sa gloire. Nous avons les prémices de l'Esprit Saint. Quand nous serons avec Dieu, nous allons le voir tel qu'il est, nous allons rayonner comme des soleils auprès de notre Dieu. Hein? Déjà, Joseph avait vu les étoiles de ce frère. Mais nous allons être comme des soleils auprès de notre Dieu. Extraordinaire, nous allons rayonner de la présence de Dieu. C'est en contact avec Dieu, nous serons des êtres célestes et nous rayonnerons de la gloire de Dieu. Et déjà sur la terre, Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions, à visage découvert, on le voit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, c'est un verset extraordinaire, si vous voulez prendre 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Prenez cela. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Tous ces versets, vous prenez du fluo et vous les indiquez, vous les relirez. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image en contemplant le Seigneur. Est-ce que vous contemplez le Seigneur? Comment est-ce que nous contemplons le Seigneur? Comment est-ce que nous contemplons le Seigneur? C'est beau, mais ça doit devenir pratique. Ça ne doit pas rester théorique, ça ne doit pas être un verset dans la Bible, je ne comprends pas vraiment, mais enfin c'est formidable, c'est bien. Non, et comment est-ce que je contemple? Par le Saint-Esprit, quand j'adore. Quand j'adore par le Saint-Esprit, le Seigneur, quand je lis la parole de Dieu qui est un miroir et qui renvoie la sainteté, la gloire de Dieu dans ma vie. Par le Saint-Esprit, Dieu travaille. Il y a des paroles réma que Dieu veut vous donner pour vous faire vivre au jour, jour après jour. Il y a des paroles de Dieu dans la parole qui se révèlent, qui veulent révéler la gloire du Père et la gloire du Fils dans votre vie. Et quand vous avez ces révélations-là, vous êtes transformés en la même image. Vous êtes transformés de gloire en gloire. De gloire en gloire, il y a une transformation pour ressembler de plus en plus au Christ. Nous sommes appelés à être l'image du Christ. Nous sommes faits à l'image de Dieu et l'image du Christ doit s'accomplir dans nos vies. Nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu l'Esprit et il y a un renouvellement chaque jour. Il y a une transformation quotidienne. Il y a un changement quotidien. Cette gloire nous est dès à présent acquise, mais seulement en lui, pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui. C'est ce qui a été dit, hein, tantôt. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ne nous glorifions pas indépendamment du Seigneur. Ne félicitons pas quelqu'un de telle manière qu'on le met au-dessus. Oh, vous avez vu, et nous avons tendance, attention, la chair a des tendances terribles de mettre sur un plateau, de mettre, d'élever les hommes qui sont faits à l'image de Dieu, élevons le Seigneur dans la personne, mais n'élevons pas des gens. La gloire à venir semble correspondre aux souffrances du temps présent, mais est hors de proportion. Il y a une correspondance entre les souffrances, je le disais, hein, entre les souffrances et la gloire. Il y a un poids de gloire. Mais à côté de ce poids de gloire, il y a beaucoup de souffrances. Et plus il y a de souffrances pour le nom de Jésus, je pense qu'il y a aussi plus de gloire encore. Ceux qui ont souffert beaucoup dans l'obéissance. Parce que bon, il y a une grande différence entre la souffrance due à nos péchés, à nos fautes. Ça c'est, bien sûr, c'est des souffrances aussi, vous allez me dire. Mais c'est pas les mêmes souffrances. Les souffrances, parce que nous avons gâché des occasions de servir Dieu et des souffrances parce que nous avons raté beaucoup d'aspects dans nos vies. Bon, ça c'est une chose. Dieu est Dieu de restauration. Dieu est Dieu de pardon. Mais la gloire de Dieu se trouve pas là. La gloire se trouve dans l'obéissance. Quand on plaît à Dieu, le témoignage de Dieu sur Jésus, hein, écoutez-le, j'ai mis ma gloire sur sa vie, c'est ça que Jésus, le Père dit de Jésus, j'ai mis ma gloire sur lui, écoutez-le, j'ai mis ma joie en lui, j'ai mis ma gloire sur lui, il fait mes délices, il fait ce qui m'est agréable, et je me plais à voir sa vie, regardez Jésus. Et ressembler à lui. De Corinthiens, chapitre 3, verset 17, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un moment de légère affliction. Il y a des afflictions. Quand nous plaisons à Dieu, quand nous cherchons Dieu, eh bien, il y a des bâtons dans les roues. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont pas là parce qu'il y a des problèmes. Hein, parce qu'on cherche Dieu, eh bien, ça permet aussi un déclenchement de l'ennemi. L'ennemi n'aime pas. Et Dieu permet aussi pour éprouver notre foi. Et au travers de cela, nous allons grandir. Et si nous recherchons Dieu, si nous voulons vraiment sa gloire, un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce qu'il n'y a pas de mesure. On ne peut pas comparer la gloire qui nous est réservée dans le ciel avec les quelques afflictions momentanées. Même les afflictions de Paul. Il a été lapidé 2 fois. Il a été, il a fait naufrage plusieurs fois. Il a été lapidé, on l'a fouetté combien de fois? Au moins 3 fois, je pense. Hein? Laissé à moitié mort une fois. Etc., etc. Il y a beaucoup de choses. On pourrait, il a été privé de nourriture, privé d'habits chauds, parce que il traînait dans des prisons, il faisait humide et froid. Toutes ces choses, il a connu. Il a connu les tourments, il a connu, il était au milieu des faux frères. On lui a fait des tas de problèmes, des procès, des soucis interminables de toutes les sortes, en proie à toutes sortes de choses. Il a été tenté comme tous. Il a dû lutter contre ces choses. Ça n'a pas été facile. Alors, au chapitre 4, verset 6, « Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, à briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » On peut lire ce verset, c'est extraordinaire. C'est ce qui suit, hein, le chapitre 3, c'est le chapitre 4 au verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La puissance de Dieu qui nous permet d'être forts, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré la persécution, malgré les tribulations, malgré la maladie, malgré la mort de ceux qu'on aime, ou quoi que ce soit, qui peut nous arriver, qui peut ébranler nos vies, nous pouvons tenir par la grâce de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre, quelquefois brisés. C'est au travers de ce brisement que Dieu peut manifester sa gloire dans nos vies. Des vases non brisés, vous savez, peuvent être très orgueilleux. Quand tout va bien et quand tout a toujours bien été, si vous êtes quelqu'un de parfait, presque, hein, où tout a toujours été bien, tout a toujours été nickel, tout a toujours été formidable, et tout va bien, c'est normal, hein. Alors, les autres devraient faire autant. Et ces gens-là sont extrêmement orgueilleux. Mais quand on a vécu des revers, quand on a vécu des difficultés, on peut mieux comprendre. On est plus humble vis-à-vis des autres qui souffrent aussi. Et là, on peut laisser luire la lumière de Christ. On est un peu comme la cruche dans les mains de Gédéon qui a dû être brisée pour que la torche enflammée de Dieu puisse luire. C'est un peu cela. Nous sommes des vases de terre brisés, mis à terre pour que la torche enflammée, vous savez, des 300 hommes de Gédéon. C'est ça qui leur avait été demandé, de mettre des torches dans des cruches, et puis un signal donné, ils devaient briser les vases. Et puis cette lumière a fait peur aux ennemis qui étaient dans la vallée, et se sont tous entretués. Et nous sommes comme des vases. Et Dieu, par sa grâce, permet que nous soyons brisés. Il n'y a pas de brisement. Sans brisement, il va pas y avoir de gloire. Parce que c'est pas l'être humain qui doit être glorifié, vous savez. L'être humain ne sera pas glorifié. Qui prêche, qui enseigne, qui fasse beaucoup de disciples, qu'il ait du succès dans ses entreprises, qu'on fasse quoi que ce soit et qu'on dise c'est Dieu qui m'a aidé de ci et de là. Si nous ne sommes pas brisés, Nous allons remettre ces choses quelque part à nos mérites. Vous voyez, il y a quelque chose de particulier chez moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, plutôt qu'un autre, je suis un... on ne le dira pas, hein, on dira, ben voilà, c'est comme ça, il faut bien avouer la vérité. Mais quelque part, c'est faux. C'est Dieu qui doit être glorifié, il doit être au centre et au-dessus de toute chose. Et le brisement qui nous est nécessaire va permettre à Dieu d'intervenir en notre faveur. Il est notre secours, il va agir et il va faire luire cette lumière au fond de nos cœurs. C'est là que la gloire va être visible. Pour que la puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La puissance supérieure doit être attribuée à Dieu et pas à nous. Et il n'y a rien à faire, nous ne passerons pas outre du brisement. Le brisement est nécessaire parce que Dieu veut recevoir toute la gloire et ce ne sera pas à nous et ce ne sera pas à quelqu'un d'autre. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Mais en lui, nous avons de la gloire. En lui, et uniquement en lui, nous pourrons et nous serons glorifiés. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés. Ça, c'est l'autre face, vous voyez. C'est l'autre face. Hein, vous voulez la gloire, mais il y a aussi l'autre face. Mais Paul, il dit, oui, on a été tout ça, mais persécutés, non abandonnés, abattus parce qu'ils ont connu ça. Mais pas perdu. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, parce que la résurrection est indissociable de la mort, vous savez. C'est pas possible de triompher de tout et de vivre dans la résurrection sans passer par la mort à nous-mêmes. Ce serait une offense, c'est une grave offense de ne pas passer par la mort, parce que les deux sont indissociables. Je n'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que Christ crucifié et ressuscité. Il y a les deux. Il y a le Christ crucifié, et ça c'est la mort à moi-même. Je dois mourir à mon orgueil, à ma suffisance. Je dois mourir à ma suffisance. Et tant que je ne serai pas mort à ma suffisance, Dieu ne va pas arrêter. Il va agir jusqu'au bout, et je peux vous l'assurer. Si c'est pas maintenant, il va le faire un autre temps, mais il le fera. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. En conclusion, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Nous avons Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Un jour, nous serons avec lui. Nous entrerons, comme on dit, dans les cimetières. Nous rentrerons dans la gloire. Il est entré dans la gloire. Hein, on ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est des mots comme ça. Il est entré dans la gloire. Mais c'est fantastique, la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Mais il faut payer aussi le prix. Il y a un prix à payer pour rentrer dans la gloire. Il y a donc un poids de gloire. Il y a un poids de gloire. Que nous ne soyons pas trouvés légers devant Dieu. Nous allons prier.